Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Habituellement le vendredi, on traite de l'actualité de la bande dessinée, mais aujourd'hui, vendredi 16 octobre, c'est une journée spéciale sur France Culture. Tous les programmes, toutes les émissions tenteront chacune de répondre à la question « Que faisons-nous du débat public ?» Comment faire entendre un débat d'idées à l'heure de la puissance du buzz et des diatribes expéditifs ? Dans le monde culturel, dans les milieux intellectuels et les universités, dans le monde scientifique, dans les médias nouveaux et anciens, aux États-Unis comme en France, partout, on a le même sentiment que le débat d'idées s'est dégradé. Philosophes, historiens, sociologues, artistes, journalistes vont venir tout au long de cette journée débattre à ce sujet. Et pour bien commencer cette journée spéciale, le journaliste Frédéric Taddeï, dans le métier justement d'organiser des débats d'idées, chose qu'il est devenu impossible de faire à la télévision française, avait-il déclaré pour expliquer son arrivée sur la chaîne de télévision russe francophone Russia Today, où il anime désormais l'émission quotidienne de débat Interdit d'interdire. Et également présente avec nous Claire Blandin, historienne des médias. Cette crise amplifiée par les nouvelles pratiques numériques est-elle si inédite que cela. Bonjour Claire Blandin, bonjour Frédéric Taddeï. Oui, une journée spéciale avec un intitulé « Que faisons-nous du débat public ?» avec un point d'interrogation à la fin, mais on aurait tout aussi pu mettre un point d'exclamation. Alors d'abord, Frédéric Taddeï, Claire Blandin, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat ?
Oui, sans doute, comme vous l'avez dit, c'est ce qui fait que je me suis exilé pour pouvoir continuer. Maintenant, ça me paraît pas non plus définitif. Il suffirait de décider que l'on recommence et l'on recommencerait. Il n'y a pas de malédiction, vous voyez. D'ailleurs, dès que ça a commencé à aller mal avec les gilets jaunes, qu'a fait Emmanuel Macron ? Un grand débat.
Mais quand vous dites ça peut s'améliorer, à quel moment ce débat d'idées s'est dégradé ou l'organisation de débats d'idées à la télévision n'a plus été possible, Frédéric Taddeï ?
Dans mon cas personnel, c'est après ce soir ou jamais, parce qu'il y a eu une nouvelle présidence, une nouvelle direction de France Télévisions, mais il faudrait peut-être demander à Claire Blandin, c'est elle l'historienne. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce soir ou jamais, 10 ans auparavant, puisque cette émission a duré 10 ans, on disait déjà qu'il n'y avait plus de débat à la télévision. Il se trouve que à ce moment-là, la présidence de France Télévisions a eu envie qu'il y ait des débats et m'a demandé de les organiser. Mais je ne me souviens pas qu'on disait « Ah, c'est formidable, c'est l'époque où il y a du débat partout !»
Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait?
Les invités
ou juste une audience qui n'était pas satisfaisante.
L'audience était formidable, mais donc croyez-moi, par rapport à ce qu'il y a d'habitude, elle était formidable. Non, à un moment, on n'a plus envie de ça, mais ça ne me choque pas en tant que tel. J'ai fait une émission pendant 10 ans, je n'allais pas la faire pendant 30 ans, vous voyez, donc il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Ça ne me choque pas. Ce qui est choquant, c'est quand vous dites ensuite qu'il ne faut plus de débat ou qu'il ne faut tout simplement plus d'émissions culturelles. Voilà, ça peut me choquer, mais comme de toute façon je regarde pas la télé, j'en suis pas forcément victime, vous voyez, mais je plains les téléspectateurs.
Claire Blandin, vous avez aussi l'impression que aujourd'hui on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à organiser des débats d'idées?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période de réorganisation du paysage médiatique. Quand on regarde historiquement ce qui s'est passé au XXe siècle, les médias sont censés être au cœur de cet espace public, hein, pour justement organiser le débat dans le cadre démocratique. C'est comme ça qu'ils ont été posés, institués au fil de notre histoire, par la Révolution française, par la loi sur la liberté de la presse en 1881. On leur a donné ce rôle-là. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait des moments de réorganisation. Malheureusement, ce sont souvent des moments de crise où ce paysage médiatique se réorganise, est obligé de le faire pour permettre à nouveau à la démocratie de fonctionner un peu mieux, en fait, hein, de manière un peu plus fluide.
Mais sauf que ce qui se passe dans les médias, on le retrouve dans le milieu universitaire, on le retrouve y compris dans le milieu scientifique.
Alors, c'est vrai que la circulation des idées prend de nouvelles formes dans tous les milieux aujourd'hui. Les dates que je vous ai citées auparavant, c'est des dates de grande crise institutionnelle. Hein. La date la plus récente, finalement, qu'on pourrait citer, c'est la Libération. C'est 1946, c'est notre dernière grande réorganisation du paysage médiatique et de l'université et de la circulation des idées. Effectivement, tout cela est lié. Donc, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que le législateur n'a pas une forme de retard par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre société sur le plan de l'évolution technologique, sur le plan de l'évolution sociale, est-ce qu'il n'y a pas un retard à rattraper pour réorganiser justement cette circulation des savoirs, des opinions?
Vous parlez donc du passage à l'ère numérique?
Oui, le passage à l'ère numérique, mais aussi ce qu'est la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire les fractures sociales, les fractures numériques, les fractures territoriales, le changement de statut d'un certain nombre de métiers intellectuels qui se sont féminisés, dévalorisés dans le même temps au cours des 20, des 30 dernières années. Donc on a des évolutions sociales qui sont majeures et dont on n'a pas forcément encore bien pris la mesure et dont on sent les sursauts, les soubresauts et les conséquences dans notre organisation sociétale.
Frédéric Taddeï, vous, aujourd'hui, par exemple, comment vous faites pour organiser un débat, pour choisir un sujet de débat plutôt qu'un autre ?
Moi, en l'occurrence, j'ai toujours procédé à peu près de la même façon. Après, sur la forme, ça change. Mais vous posez une question qui est dans l'actualité, vous n'êtes pas obligé d'inventer un débat. Parfois, ça arrive. On se dit, tiens, cette question, personne ne se la pose, il faudrait se la poser. Et ensuite, vous allez essayer de trouver les gens qui ont travaillé sur ce sujet, qui représente, si possible, toutes les visions qu'on peut en avoir. Vous n'allez pas prendre des chroniqueurs que vous payez toutes les semaines pour avoir des avis sur tout, si vous voyez la différence. Non pas que ce soit désagréable, ce genre de discussion de café du commerce, c'est pas désagréable, on peut en avoir entre amis le week-end chez soi et bien s'amuser. Mais disons que ça n'apporte pas grand-chose. Donc vous prenez des gens qui ont travaillé de façon très différente, ça peut être des artistes, ça peut être des intellectuels, faire un film sur le travail le dimanche ou faire un essai sur le travail de le dimanche, c'est toujours travailler sur le travail du dimanche, vous voyez, et ça peut être très intéressant. Chaplin a dit sur la crise de 29 des choses bien plus importantes que tout ce que les journalistes à ce moment-là pouvaient dire, et ça nous reste aujourd'hui dans l'esprit. John Ford, John Steinbeck, de la même manière. Les artistes, il ne faut pas les dévaloriser, ils ont un regard qui est aussi pertinent que
Alors vous dites qu'il faut que les gens aient une légitimité pour pouvoir parler.
La légitimité est un faux problème, parce que si on parle de légitimité, les gens vous diront toujours qu'est-ce que cet artiste a comme légitimité. Mais on s'en fout de la légitimité. Ce qui nous intéresse, c'est le travail et la vision. Vous pouvez avoir une vision intéressante, originale ou pas, même si vous avez tous les diplômes qui vous rendent légitime.
Oui, alors est-ce que les débats tels qu'on les propose aujourd'hui dans les médias traditionnels et dans le monde de l'édition, est-ce qu'ils rendent compte vraiment des préoccupations de l'heure et du réel? Autrement dit, est-ce que les débats proposés rencontrent les attentes des citoyens?
Je ne sais pas ce que sont les attentes des citoyens.
Oui,
parfois, ils ne le savent que quand on leur propose. Et à la limite, je dirais que ce n'est pas le problème. Moi, je crois qu'on peut le résumer de la façon suivante. Il y a des débats aujourd'hui, il y a des débats sur Twitter, sur Internet, il y a des émissions de débats, notamment sur les chaînes d'information continue avec des chroniqueurs. Donc, pour être voyant vous dire, il y a du débat. Sauf que ces débats-là, en fait, cherchent l'affrontement, le clash. Pas le buzz, le clash. Le clash, c'est qu'il y a un bon et un méchant. C'est très rassurant, le clash. Les grands médias aiment bien le clash. Sauf que le clash, c'est une logique de guerre civile. Vous voyez, c'est j'ai raison ou j'ai tort, tu es bon, tu es méchant, je t'élimine, et d'ailleurs, après un clash, vous pouvez vous retrouver éliminé. Tout à coup, la terre entière a l'air de vous fondre dessus pour vous dire que vous êtes un monstre. Ça, c'est une logique de guerre civile.
On est dans cette logique aujourd'hui, Frédéric?
Très souvent, elle est encouragée par les médias. Il y a un populisme des médias, vous savez, les médias aiment beaucoup dénoncer le populisme des hommes politiques, mais il y a un populisme
des réseaux
médias,
sociaux.
Ou des réseaux sociaux, voilà, c'est toujours la faute des réseaux sociaux. Mais vous pouvez être aussi dans le populisme dans les médias. Donc, à l'opposé du clash, il y a le débat. Le débat, c'est plus subtil. C'est plus rassurant, c'est moins rassurant, si vous voulez, parce que tout est complexe dans le débat, surtout si vous le faites comme je le fais, c'est-à-dire en montrant qu'il y a différentes visions du monde, il peut y en avoir 5, 6, parfois plus, et c'est pas rassurant du tout. Vous dites, ah, ben, c'est pas aussi simple que j'aurais cru ce problème. Je croyais que c'était noir ou blanc. Ah non, finalement, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du rouge.
C'est ça votre objectif, Frédéric Taddeï, à la question à quoi servent les débats?
C'est de montrer la complexité de la question. C'est que vous soyez amené à reconsidérer l'opinion que vous pouviez en avoir. Et puis surtout à montrer que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est qu'on peut ne pas être d'accord et pourtant s'écouter et vivre ensemble. Ça, c'est la démocratie. Le clash, c'est la guerre civile.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et journée spéciale, que faisons-nous du débat public? Claire Blandin, vous qui êtes historienne des médias, vous rappelez que si tous les journaux, si tous les médias ont leur tribune, leur page, débat d'idées, confrontation des arguments, chaque titre insiste pour que ces débats soient là pour conforter sa ligne éditoriale.
Oui, alors dans les médias sont organisés, enfin les espaces de débat sont mis en scène à l'intérieur des médias. Bien sûr, ce sont des espaces qui sont contrôlés, qui sont convenus. Ça fait partie d'une organisation générale, du journal ou de la chaîne de télévision. Et on sait que ces espaces qui ne sont pas strictement identifiés comme ceux de la rédaction sont aussi des endroits pour réaffirmer la ligne éditoriale du journal ou pour jouer avec. Au Figaro, par exemple, pendant longtemps, le courrier des lecteurs, dans la plupart des journaux, le courrier des lecteurs est évidemment fabriqué par le journal, largement, et dans le Figaro, pendant longtemps, ça a été un espace d'expression d'une droite plus à droite que le reste du journal. C'était quand même la rédaction qui s'exprimait, mais c'était un autre espace, comme par ailleurs le Figaro Magazine pouvait aussi être un espace pour cette nouvelle droite d'émergence. Et les pages de débat, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va donner la parole à un certain nombre de personnalités extérieures, ce qui renforce cette parole, mais bien sûr, on va rester dans un cadre qui est celui de la ligne éditoriale du média et qui est celui qui est attendu en fait par la rédaction dans son projet général.
Et pour ça, vous donnez des exemples, ça existe depuis toujours, vous dites que le J'accuse d'Émile Zola était là aussi en 1898 pour conforter la ligne éditoriale de l'Aurore, que le manifeste des 343 salopes, s'il a été publié dans le Nouvel Observateur en 1971, c'était aussi parce que c'était un combat de la gauche, et on peut arriver jusqu'à la tribune de Virginie Despentes dans Libération. Mais alors, le débat, il se situe où? C'est-à-dire, chacun a un point de vue, et puis ensuite, c'est au lecteur ou au citoyen de se faire une idée en passant d'un journal de droite à un journal de gauche?
Le projet du paysage médiatique, c'est ça. C'est-à-dire que la circulation des idées se fasse dans le paysage, dans son ensemble. Et je parlais de la Libération tout à l'heure. La loi Bichet, c'est celle qui oblige à avoir tous les quotidiens présents dans tous les kiosques de France pour que justement le citoyen puisse aller dans son kiosque et se faire une idée de la diversité de ses opinions. Et c'est à l'intérieur de
Mais
cette diversité...
Mais concrètement, ça se passe pas comme ça. Généralement,
ça se passe pas
chacun
comme ça.
Va chercher ce qu'il a envie de lire. Il a son journal, non?
Oui, et c'est sans doute la difficulté contemporaine, c'est que ces phénomènes de bulles médiatiques sont redessiné par les réseaux sociaux. Alors je dis redessiné parce que ça existait aussi. Le lecteur de l'Humanité dans les années 50, il n'avait pas non plus accès à l'information du Figaro. Mais aujourd'hui, on sait que presque chaque citoyen peut se créer ses propres bulles par ses réseaux sociaux, par ses lectures, et qu'on a un phénomène de fragmentation de ces médias qui est extrêmement important.
Vous sortez de votre bulle, justement,
Frédéric Taddeï ? Non, mais c'est le plus important, si vous voulez. Évidemment qu'il y a eu des... Qui a eu, comme le disait Claire, il y avait le lecteur de l'Humanité, le lecteur du Figaro, il y avait celui qui regardait l'ORTF et qui pensait que c'était ça l'objectivité, etc., etc. Aujourd'hui, la grande révolution, c'est que chacun peut s'exprimer, chacun est devenu émetteur. Par la même occasion, les journalistes qui avaient le monopole de l'information se sont retrouvés tout à coup en situation de concurrence, mais pas seulement avec les réseaux sociaux, avec Internet. Ils l'ont été dès que on a pu voir en France, des chaînes étrangères. Ça a commencé avec CNN pendant la guerre du Golfe. Tout à coup, CNN arrive et vient dans le tuyau de nos chaînes à nous et on regarde CNN. Et tout à coup, le journaliste français se rend compte qu'il n'a plus le monopole de l'information. Ensuite, il y aura Al Jazeera. Aujourd'hui, il y a Russia Today, RT France, etc., etc. Et il le prend très très mal, le journaliste français. Mais au lieu de devenir meilleur, plus objectif, plus intéressant, plus... Non, tout à coup, il va crier « Ah, les autres, c'est de la propagande » des fake news. Et c'est, à mon avis, le point de départ du malentendu, si vous voulez. Et tout à coup, les journalistes prennent une mentalité d'assiégé, se méfient de tout et de tout le monde, refusent souvent les débats parce qu'on ne sait jamais qui on va être obligé d'inviter, etc., etc. Et que tout le monde a tendance, au fond, à préférer la morale à la vérité, à mettre ses idées, ses opinions en bandoulière, surtout montrer patte blanche en permanence, pour montrer qu'on est sérieux, qu'on est dans le bon camp, au lieu d'être journaliste.
Quand vous regardez CNews, par exemple, Frédéric Taddeï.
Quand je regarde qui?
Une chaîne comme CNews.
Je regarde pas tout ça. Ouais. Je vous parle de tout ça théoriquement. Je ne regarde pas ça plus que autre chose.
Ceci dit, cette attitude des journalistes n'est pas propre qu'aux médias. Je veux dire que quand il y a une volonté d'interdire un livre, un débat, un artiste, on a parlé de cancel culture, des campagnes de boycott, comment vous réagissez, vous, Frédéric
Taddeï? Mais tout le monde fait ça. Tout le monde est toujours... il n'y a pas que d'aujourd'hui qu'on veut interdire un film ou qu'on voudrait qu'un tel ne puisse plus jamais travailler. Ça a toujours existé.
Non, mais ça, cette fois-ci, ça sort des campus.
Aujourd'hui, c'est... Mais dans tous les campus, c'est une vraie tradition en France et notamment de l'extrême gauche que de pas vouloir que les autres puissent s'exprimer. Mais il se trouve que aujourd'hui, c'est renforcé par les chambres d'écho que sont les réseaux sociaux, les blogs, etc., etc. Dès l'instant où tout le monde est émetteur, tout le monde peut donner son avis. Généralement, ce sont les fanatiques qui donnent le ton. Vous savez,
c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu dans ce que vous dites, qui est celui de l'internationalisation, avec une circulation des médias à l'échelle internationale, qui est beaucoup plus rapide et vraiment facilitée par les dernières décennies et l'évolution technologique et politique des dernières décennies. Reste la question fondamentale, qui est celle que vous posiez tout à l'heure, de la légitimité. On parlait de la fin du 19e siècle et du J'accuse tout à l'heure. C'est le moment où émerge une figure qui est celle de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut donner son avis dans le débat public parce qu'il a acquis une légitimité dans un autre domaine, artistique, littéraire, scientifique, etc. Et la vraie question de la recomposition actuelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire qui a quelle parole, avec quelle autorité? Et c'est l'autorité de la parole de qui? Les chroniqueurs dont vous parlez, c'est des professionnels du débat. C'est des gens qui vont effectivement être là pour animer cet espace débat des médias, mais qui n'ont pas cette légitimité en eux-mêmes. Ils pratiquent une forme de journalisme, bien sûr.
Mais je crois qu'il n'y a pas de légitimité innée. Aucun diplôme ne vous donne la moindre légitimité pour donner votre opinion sur la crise du pétrole, sur le coronavirus,
alors,
etc.
Alors, pour éviter justement cette question qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui a cette légitimité de pouvoir mener un débat. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Frédéric Taddeï, c'est justement à propos de ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la dernière fois que vous avez eu l'impression d'avoir raté un débat, loupé une émission? C'était pour quel débat et pour quelle raison?
Mais ça peut arriver très souvent, c'est que les gens, par exemple, vont être trop d'accord les uns avec les autres. Si les gens sont trop d'accord les uns avec les autres, et ça peut arriver dans un débat, il y a un phénomène de contamination. Vous vous respectez, vous êtes content d'écouter l'autre, même si vous n'étiez pas d'accord au départ, et vous allez faire le choix de vous tourner plutôt sur ce que vous partagez plutôt que ce qui vous divise. En cela, ça peut être très agréable, y compris pour l'animateur. Mais vous perdez quelque chose du débat parce que tout à coup, dans l'opposition qui pouvait exister et qui, encore une fois, pour moi, une opposition, ça n'est pas radical. On n'est pas obligé de se tuer à la fin. Une opposition, on peut vivre avec. Cette opposition, tout à coup, n'apparaît plus. Et parmi les gens qui écoutent ou qui regardent ce débat, ils ont envie que cette opposition existe. Pourquoi est-ce important? C'est ce que je dis toujours. Vous n'allez pas convaincre les gens à l'issue d'un débat qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Simplement, en comprenant pourquoi les gens ne sont pas d'accord, on comprend où est le problème. Et c'est le plus important, très souvent, c'est de comprendre où est le problème. Vous voyez, c'est pas forcément de savoir qui a raison, qui a tort.
Enfin, avec vous, Claire Blondin, j'ai envie de vous poser la question, mais à l'envers. La dernière fois que vous avez entendu ces derniers jours un débat que vous avez jugé réussi, intéressant, enrichissant, c'était pour quel débat, pour quel sujet?
Très bonne question. Je vais citer, le site de l'Université Ouverte et les débats actuels sur la nouvelle loi de programmation de la recherche, parce que c'est vrai que ce sont les débats qui m'intéressent aujourd'hui. Mais voilà, je me tourne vers des médias militants pour aller les trouver.
Merci Claire Blondin. Merci Frédéric Taddeï.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et la journée spéciale autour du débat public continue dans un petit quart d'heure, c'est-à-dire après les informations, après le journal des idées de Jacques Munier. On retrouve les enjeux internationaux avec Julie Gacon qui reviendra bien sûr sur ce débat. Cette nuit, le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce qu'on peut toujours débattre aux États-Unis? D'autres questions, par exemple, est-ce qu'on débattait mieux au 18e siècle? Ça, c'est l'objet de l'émission de Adèle Van Rett à 10h dans les chemins de la philosophie. Peut-on débattre de la science? Ça sera bien sûr le sujet de la méthode scientifique à 16h et Étienne Klein fera partie des invités de Nicolas Martin. Une journée donc à suivre à la radio ou sur franceculture.fr. Bonne journée.